France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
Il y a 30 ans, le 6 octobre 1995, Michel Mayor et Didier Queloz, astronomes à l'Observatoire de Genève, annonçaient au monde la découverte de la première exoplanète. Pourquoi peut-on parler d'un séisme scientifique ? Couronnée par un prix Nobel en 2017, cette découverte a ouvert l'un des champs de recherche les plus dynamiques et les plus palpitants de l'astronomie moderne. Aujourd'hui, avec plus de 6000 exoplanètes détectées, on découvre que la moitié des étoiles semblables au Soleil possèdent au moins une planète. Et dans le même temps, que nos planètes et la configuration même de notre système solaire sont extrêmement rares. Ce bouleversement est aussi bien scientifique que philosophique, car cette découverte a transformé notre perception de l'univers et notre place en son sein. 30 ans d'exoplanètes, il y a des beaux mondes. Faustine Candaloup, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de recherche CNRS à l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble. Guillaume Hébrard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris, à l'Observatoire de Haute-Provence, et vous êtes l'auteur de l'ouvrage Extraordinaire planète extrasolaire qui vient de paraître aux éditions Berthe et Jean. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture. Nous allons être rejoints dans quelques instants par Michel Mayor et Didier Queloz. Et puis un grand merci à vous aussi qui nous écoutez en direct ou à toute heure en podcast. Vous pouvez aussi nous suivre sur Blue Sky. Tous les jours, on poste pour vous de nombreuses ressources. C'est à retrouver sur notre compte @sciencecqfd. Alors depuis 1995, à quoi les exoplanètes découvertes ressemblent-elles ? Quel est le bestiaire des planètes extrasolaires ? Et comment leur étude redessine-t-elle notre compréhension de la formation des systèmes planétaires ? Nous sommes ensemble une heure jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais d'abord, Guillaume Hébrard, Le 6 octobre 95, vous en souvenez ? Ça a marqué votre vie étudiante, je crois.
Alors, je ne me souviens pas exactement de la date. Là. Maintenant, je sais que c'était cette date-là, mais à l'époque, je ne me souviens pas exactement. Par contre, ce que je sais, c'est qu'en début 95, donc moi, je me souviens surtout de septembre 95, c'est là où j'ai commencé à vraiment me spécialiser en astrophysique pendant mes études universitaires. Donc, c'est ce qu'on appelait un DEA à l'époque. Maintenant, c'est un Master 2. Maintenant, on commence un peu plus tôt l'astrophysique à l'université. Donc, moi, c'était le début de mes études. C'est là où j'ai rencontré plein de collègues, d'étudiants, d'étudiantes qui étudiaient comme moi l'astrophysique, qui commençaient, qui, pour certains, sont des collègues maintenant. Donc, justement, on s'est remémoré ça il y a quelques jours. Ça fait 30 ans qu'on se connaît, qu'on fait de l'astrophysique ensemble. Et donc, on se souvient notamment que nos professeurs d'astrophysique, eh ben, ils faisaient référence à ce résultat qui était extraordinaire. Et donc, je me souviens pas bien dans les détails, mais je me souviens, en gros, qu'il se passait de quelque chose de très fort qu'il fallait pas louper. Je crois que j'ai la moitié loupé quand même, mais pas complètement.
Il y avait un tremblement de terre. Voilà. Est-ce que vous l'avez vécu aussi, Faustine, quant à Lou?
Bah, non, en fait, parce que donc, j'étais assez jeune, j'avais 7 ans, et même si j'étais déjà férue d'astronomie à cet âge-là, et j'essayais de lire tout ce qui me passait sous la main, je suis passée complètement à côté de ce résultat.
Bon, c'est un résultat qu'on va pouvoir décortiquer tout au long de cette heure et resavourer, mais peut-être déjà, avant de donner la parole aux deux prix Nobel, peut-être qu'il faut recontextualiser. En 1995, on en est où dans la recherche, dans ce domaine-là, Guillaume Hébrard?
Ben en fait, ça fait assez longtemps quand on voit le Soleil dans notre ciel. On sait que les planètes du système solaire, donc Mercure, Vénus, la Terre, Jupiter, tout ça tourne autour. Ça fait assez longtemps qu'on l'a compris. Et ça fait assez longtemps qu'on a compris aussi que les étoiles qu'on voyait la nuit dans le ciel, c'était la même chose que le Soleil. Donc des grosses boules d'hydrogène qui mettent chaleur, lumière, énergie. Mais bien plus éloignées. Hein, les étoiles, on ne ressent pas leur chaleur, on n'est pas ébloui par les étoiles tellement elles sont loin. Donc une fois qu'on a compris ces deux choses, que les planètes tournent autour du Soleil et que les étoiles qu'on voit la nuit sont des soleils, bah c'est assez naturel de se dire les étoiles pourraient elles aussi avoir des planètes qui leur tournent autour. Donc ça fait des siècles qu'on se dit ça. L'un des premiers à l'avoir dit, c'est Giordano Bruno au 15e siècle, qui est, peut-être vous connaissez, Giordano Bruno, il a fini condamné par le tribunal de l'Inquisition catholique, condamné à mort pour avoir dit ce genre de choses. Et donc, depuis des siècles, on se disait que ça devait exister, mais on n'arrivait pas à les détecter, parce que c'est très difficile de détecter une planète extrasolaire. Et même, pendant des siècles, on s'est dit, mais si ça se trouve, on n'y arrivera jamais. Et donc, en fait, ce sera jamais une science, l'étude des planètes extrasolaires. On pourra jamais vraiment commencer si on n'arrive jamais à la détecter. Et même, certains pouvaient dire, peut-être que le Soleil est une étoile extraordinaire, exceptionnelle, l'une des rares, ou la seule dans la galaxie même, à avoir des planètes. C'est-à-dire, c'était peu probable, mais il y avait quand même des arguments qui pouvaient plaider là-dessus. Et tant qu'on n'avait pas de détection, on ne pouvait pas répondre de manière claire, est-ce que les planètes existent autour d'autres étoiles que le Soleil ?
Faustine Candaloup, à ce moment-là, est-ce qu'on assiste à une course à la détection de la première exoplanète ?
Alors depuis, oui, c'est sûr.
Oui, depuis.
Il y a une énorme frénésie. On voit vraiment que ça augmente de façon exponentielle à la fois le nombre de découvertes, mais aussi le nombre de méthodes qu'on a pour détecter ces exoplanètes. Mais après, il y a un bouleversement énorme. Je pense que Guillaume est plus expert que moi, mais on s'attendait, on avait une vision assez naturaliste des choses, à classifier, à étiqueter, à mettre dans des boîtes les planètes telles qu'on les connaissait. Puis on n'avait que nos 8 planètes, à l'époque 9 en fait. Pluton a été déclassé en tant que planète naine. Et puis donc il y avait près du Soleil les planètes de type tellurique, rocheuse. Ensuite il y avait les deux géantes gazeuses, Jupiter et Saturne. Et ensuite beaucoup plus loin, les géantes glacées qui sont un peu plus petites et donc glacées comme leur nom l'indique. Donc on avait cette vision très un peu hiérarchisée. Puis en fait la première qu'on a découverte en 95, c'est un Jupiter chaud. C'est un alien complètement, donc c'est, je crois qu'il fait deux fois la masse de Jupiter, hein, corrige-moi Guillaume.
Et, la moitié en fait,
mais c'est un peu la moitié, pardon. Et il est aussi très très proche du Soleil, donc il fait son tour le tour du Soleil en quelques jours.
C'est ça, cette toute première exoplanète, c'est 51 Pegasi B.
Et c'est comme sur la course, peut-être, si je peux compléter, en fait, avant justement cette détection, vous faisiez référence, est-ce qu'il y avait une course pour en trouver? Pas vraiment en fait, il y avait quelques personnes, quelques équipes dans le monde qui faisaient ça. Deux ou trois. Parce qu'en fait, c'était pas facile. Enfin, on savait, comme je l'ai dit, on savait que c'était pas facile. On se disait que même c'était infaisable. En fait, qu'est-ce qu'on fait quand on fait un programme scientifique? On fait des demandes de crédit, on fait des demandes du temps d'observation sur un télescope. En 1994, si on arrivait sur un télescope, on faisait une demande sur un observatoire en disant « Je veux faire un programme, je veux 12 nuits d'observation en octobre prochain pour détecter une planète extrasolaire », il y avait peu de chances qu'on ait du temps, parce qu'on savait que ça faisait des siècles qu'on le cherchait et qu'on n'y arrivait pas. Donc non, il n'y avait pas une course, c'était plutôt des petites équipes qui travaillaient là-dessus, qui travaillaient même pas principalement là-dessus, qui avaient d'autres thématiques qui les ont menées aux planètes extrasolaires. Et d'ailleurs, quelque chose d'assez significatif, c'est que le résultat publié par Mayer et Queloz, c'est un article signé à deux auteurs, Mayer et Queloz. Le directeur de recherche, Michel Mayer, et son étudiant en thèse à l'époque, Didier Queloz. Des résultats signés par deux auteurs, c'est très rare. La plupart des résultats, ils sont signés par des dizaines, parfois des centaines de chercheurs. Ça représente bien le fait que c'était une petite équipe dans un petit observatoire de Provence. Non, il n'y avait pas une grande course pour trouver les planètes, parce qu'en gros, beaucoup n'y croyaient plus.
Parce que, question, quand même, en 92, on a une découverte qui fait l'objet d'une parution dans Nature, celle de trois exoplanètes en orbite autour d'un pulsar, non pas une étoile comme notre solaire. Mais alors pourquoi cette découverte-là n'a pas été récompensée par un prix Nobel, Guillaume Hébrard?
Oh ça le mériterait peut-être. Moi, si je donnais le prix Nobel, je lui donnerais tranquille le prix Nobel à l'auteur de cette découverte. Elle est très intéressante aussi, en effet, vous avez raison. Elle est antérieure à la découverte de 95. Un pulsar, c'est un reste d'étoile. C'est une étoile qui est morte, et même toutes les étoiles finissent pas en pulsar. Le Soleil ne finira pas en pulsar. Seulement certaines étoiles, les plus massives, vont finir en pulsar. Et donc, en effet, on a trouvé des planètes qui sont toutes petites autour de ce pulsar. Quelques autres ont été trouvées par la suite. Mais en fait, par la suite, là, vous avez dit, on connaît 6000 planètes extrasolaires en 30 ans. Des planètes autour de pulsars, on n'en connaît que quelques-unes. Alors, ce n'est pas pour ça qu'elles ne sont pas intéressantes, mais en fait, la détection des planètes autour des pulsars n'a pas occasionné une révolution comme l'a fait la détection de Mayer et Queloz. Déjà, on a un petit peu du mal quand même à bien comprendre ces planètes autour des pulsars, donc ça n'aide pas à ce que tout le monde s'excite dessus. On comprend moins de choses sur ces astres-là. C'est pas pour ça que ce sont moins intéressants, c'est très intéressant. Et quelque chose aussi qui a un petit peu joué contre les planètes à pulsar, on n'y comprend pas grand-chose. Et en plus, un petit peu avant cette découverte de 92, une planète autour d'un pulsar a été annoncée et a été infirmée. On s'est rendu compte qu'en fait, c'était une fausse détection. Ça arrive quand on fait des choses compliquées, parfois, on n'a pas la bonne interprétation. Et donc, ça a joué un petit peu en la défaveur des planètes à pulsar. Mais si, les planètes autour des pulsars sont très intéressantes également, peut-être d'autant plus quand on ne les comprend pas bien.
Alors, 51 Pegasi B, notre première exoplanète, orbite donc autour d'une étoile qui est similaire au Soleil, située à 51 années-lumière de la Terre. Faustine Cantaloube, on disait que c'est très difficile de détecter des exoplanètes. Là, il a été utilisé la méthode des vitesses radiales. Quelle est cette technique, justement?
Oui, bien sûr. Donc, en fait, la plupart des techniques qu'on utilise aujourd'hui sont dites indirectes. C'est-à-dire qu'on ne voit pas directement la lumière qui est émise ou réfléchie, d'ailleurs, par la planète, mais on regarde, en fait, la lumière de l'étoile au cours du temps et on voit comment elle évolue. La méthode des vitesses radiales, elle consiste à regarder donc, la lumière de l'étoile et de la disperser en ses couleurs, donc en son spectre, et de regarder s'il y a une variation dans la direction de son spectre. Donc c'est le fameux effet Doppler. Donc si l'étoile elle avance légèrement vers nous, son spectre va être bleui, je réfléchissais pour ne pas dire des bêtises, et si au contraire elle s'écarte de nous, son spectre va être légèrement décalé vers le rouge. Et donc si on a cette alternance comme ça, Donc par effet Doppler, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Le centre de gravité de l'étoile n'est pas fixe. Il est à un autre endroit. Et s'il est loin de cette, enfin, s'il est loin du centre de gravité prévu, si l'étoile était toute seule, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui orbite autour de cette étoile. Et ce quelque chose, on peut en déduire plus ou moins sa masse, avec incertitude. Et donc là, on a découvert quelque chose d'une masse planétaire.
Voilà, ce qui est détecté dans ces cas-là, c'est ce léger mouvement de balancier de l'étoile par l'influence gravitationnelle d'une planète. Alors celle-ci, en l'occurrence, comme vous disiez, c'est un alien. Comme si notre Jupiter était encore plus près du Soleil que Mercure. Alors comment Michel Mayor et Didier Queloz ont-ils vécu cette découverte? Comment cela s'est-il passé à l'Observatoire de Haute-Provence, au milieu du parc naturel de Luberon? On leur pose la question dans quelques instants.
Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2019 Nobel Prize in Physics pour moitié à James Peebles pour des découvertes théoriques en cosmologie physique et pour l'autre moitié conjointement à Michel Mayor et Didier Queloz pour la découverte d'une exoplanète en orbite autour d'une étoile de type solaire.
Michel Mayor, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien.
Quelle chance de pouvoir discuter avec vous.
Ah, mais merci, c'est nous qui avons de la chance de discuter avec vous. Vous êtes donc astrophysicien, professeur émérite à l'Université de Genève et lauréat du prix Nobel de physique 2019, un prix que vous partagez avec Didier Queloz. Bonjour.
Bonjour, quel plaisir de faire cette interview avec Michel.
Merci, merci à vous deux. Didier Queloz, vous êtes astronome, professeur à l'Observatoire de Genève en Suisse et à l'Université de Cambridge en Angleterre. Grand merci à vous deux. On vous a sous la main, c'est une chance, et j'adorerais que vous puissiez nous raconter voilà, ce moment, cette découverte qui a été un séisme dans l'histoire des sciences. On est en 1995. Michel Mayor, vous étiez alors le directeur de thèse de Didier Queloz. Au moment de la découverte, nous sommes donc en janvier, vous n'étiez pas à l'Observatoire de Haute-Provence, vous étiez à Hawaï. Est-ce que vous voulez bien nous raconter comment ça s'est passé ce moment-là?
Oui, c'était un programme qui avait été déposé auprès du CNRS en fin 93, après la construction d'un instrument spécifique pour mesurer les variations de vitesse des étoiles. Et donc, on a reçu du temps de télescope en avril 94. On a commencé ce programme. Ce n'était pas beaucoup de temps. On avait une semaine tous les deux mois. Et puis, à la fin de l'année 94, eh bien, il y avait différentes étoiles qui montraient des variations de leur vitesse. Normalement, on s'attendait à ce qu'elles soient très constantes, sauf s'il y avait un compagnon qui les perturbe. Et le problème était que, malheureusement, l'activité magnétique dans les atmosphères perturbait certaines vitesses. Et donc, il fallait trouver laquelle, s'il y en avait une, était intéressante. Et puis, Didier faisait ses mesures en fin d'année, justement, quand moi je travaillais à l'Observatoire d'Hawaï, eh bien, tout d'un coup, il y en a une qui présentait justement des variations comme ça et qui semblait périodique, c'est-à-dire qu'elle n'était pas comme les variations erratiques liées au champ magnétique. Et donc, le problème, on y croit ou on n'y croit pas. Et là, je crois qu'il y avait des raisons très fortes d'être méfiant. Pourquoi? Parce que l'objet qui montrait une variation périodique montrait une variation de seulement 4,2 jours. Alors que la théorie nous disait que les périodes orbitales de planètes géantes comme Jupiter devaient être plus grandes que 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a un désaccord d'un facteur 1000 avec la théorie. Donc, je dirais, il ne fallait pas que l'on rajoute encore une mesure erronée à la longue histoire de la recherche des planètes extrasolaires. Et donc, c'est pour ça que l'on a décidé de dire non, attention, on se calme, on élimine les différentes possibilités autres que celles d'un compagnon, et puis on attend la saison suivante qui sera de nouveau visible dans le ciel. Et donc, en juillet 95, eh bien, on s'est retrouvé avec Didier et sa famille et la mienne à l'Observatoire de Haute-Provence. Et ça, c'était la belle nouvelle. L'objet montrait exactement la même variation, la même période, la même amplitude, la même phase que l'année précédente. Et c'est à ce moment-là que on a eu, je dirais, des éléments suffisamment forts pour dire c'est cette explication et pas une autre qui explique ce que l'on observe. Et donc, c'était la découverte de la première planète extrasolaire. Après, il a fallu comprendre pourquoi elle avait une période si courte. Et puis ça, c'était un travail des théoriciens. Et très vite, la réponse est arrivée. Et maintenant, actuellement, le phénomène qui est à la base, c'est-à-dire une sorte de migration orbitale, les planètes géantes naissent très loin de leur étoile, mais après vont spiraler en se rapprochant de l'étoile. Eh bien, ce phénomène est un ingrédient majeur de tous les scénarios de formation de planètes actuellement.
Vous évoquiez cette longue histoire des erreurs scientifiques, c'est-à-dire qu'en effet, avant 95, on avait eu des découvertes ou des faux espoirs en termes de détection d'exoplanètes déjà.
Oui, disons, je vais même revenir un tout petit peu plus en arrière. Comment dire, c'est assez étonnant que les astronomes, durant toute la première moitié du XXe siècle, ne pensaient pas qu'il y avait des planètes extrasolaires dans la galaxie. Incroyable. 200 milliards d'étoiles et on pensait qu'on était seul. Aberrant. Et évidemment, la théorie qui était là derrière était erronée. Et c'est dans le milieu du siècle dernier que tout d'un coup les idées ont changé. On a compris que les systèmes planétaires pouvaient se former d'une autre manière. Et donc, tout de suite, on est arrivé à la conclusion, non, il doit y en avoir partout. Et puis, il y a eu des premières mesures qui ont été faites vers les années 1940 qui tendaient à croire qu'il y avait des planètes autour d'étoiles très, très proches. Et puis après, cette idée a évolué et en fait, on a découvert que non, ces premières mesures étaient erronées. Et donc, c'est longtemps après, il y a eu encore d'autres fausses alertes, fausses découvertes. Et c'est seulement quand on a fait découvrir notre propre objet que la première planète a été découverte.
Didier Queloz, c'est toute cette histoire-là qui explique pourquoi vous avez été très prudent. Mais alors, comment ça s'est passé à ce moment-là, en 1995? Cette planète, vous la découvrez grâce au spectrographe Élodie que vous avez conçue. Comment ça s'est passé? Vous faites ces mesures en janvier, mais vous n'en parlez pas tout de suite à Michel Mayer, qui est alors votre directeur de thèse.
En fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que les mesures pour cet objet ont commencé dès le mois d'octobre. Et dès le début, il n'y avait rien au début. Les premières mesures ne montraient rien. Donc, il a fallu un petit moment pour identifier l'anomalie, quelque part, parce que pour moi, c'était une anomalie. Ça ne devait pas arriver. Les étoiles étaient sélectionnées sur la base, elles étaient stables à partir d'un autre instrument qui s'appelait Coravel, qui nous donnait une stabilité et en priori, c'était des bonnes étoiles pour rechercher les plus petits objets. Donc, très vite, moi, ce que j'ai pensé, c'était qu'il y avait un problème. Et à ce titre-là, ce n'était pas très agréable comme sensation, je ne vous cache pas. C'était presque une petite panique parce que je me retrouvais en fin de thèse et puis avec un problème dans l'instrument ou dans le traitement de données ou quelque chose qui était complètement faux. Donc, j'ai vraiment passé pas mal de temps à d'abord essayer d'enlever le problème, de faire en sorte que l'étoile redevienne normale, si j'ose dire. Et puis, on n'avait pas des mesures tout le temps. Le temps n'est pas extraordinaire durant cette période. Donc, c'était vraiment grappiller 2-3 nuits après de nouveau retour à Genève, redescendre 2 mois après. Donc, il a fallu un certain temps pour avoir assez de données, pour pouvoir être sûr que les données étaient vraiment réelles. À ce moment-là, ben, on fait ce qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver une logique. C'est-à-dire que pour moi, c'était une périodicité. On essaie de passer un modèle. Le seul modèle que j'imaginais, c'était un modèle planétaire. Donc, c'est venu dire qu'on arrive à une période, on arrive à une masse, et puis d'où la conclusion, fin février, début mars, que c'était un objet de masse planétaire en orbite de 4 jours. Alors, je vous avoue qu'à ce moment-là, j'ai trouvé ça bizarre, mais je n'ai pas trouvé ça complètement aberrant. Et ça, c'est peut-être un des privilèges de l'innocence de la jeunesse, parce que je n'avais pas encore bien réalisé à quel point on allait être face à une vague de théoriciens qui n'allaient pas être très contents par cette découverte. Et Michel, donc, quand je lui ai annoncé, il m'a dit bah, « Écoute, pourquoi pas ?» Je ne suis pas sûr qu'il m'a vraiment cru, mais en tout cas, il était intéressé. Quoi. Il s'est dit « Ça, c'est étonnant. » Et quand il est revenu, eh bien, voilà, bah, là, il y avait tout était sur la table, et puis il a bien dit à un moment donné faire son petit processus pour se dire, eh ben, ça a l'air d'être vrai. Donc effectivement, cette étoile montre ses vitesses, mais comme ça n'avait aucun sens, on a fait quelque chose qui est assez étonnant, qui, je ne sais pas si ça se ferait aujourd'hui, c'est qu'on a mis les données dans un tiroir, on n'en a parlé à personne. Michel peut-être pas en parler parce qu'il en a parlé à quelques personnes quand même. Mais en gros, et on a attendu que l'étoile réapparaisse dans le ciel de l'Observatoire de Haute-Provence. Et là, on a fait cette fameuse mission historique de l'été 1995. Où on a prévu l'orbite, donc on s'attendait à avoir certaines variations et on a retrouvé nos prédictions, ce qui est dans le monde de la science en général une sorte de preuve par la prédiction de nos modèles. On n'avait pas fait complètement tout le chemin, on n'avait fait qu'une partie du chemin qui était démontrer que les variations étaient réelles. Il fallait encore nous convaincre que c'était vraiment lié à une planète et puis convaincre le monde des astronomes. Ce qu'on n'a pas vraiment réussi à faire, ça a mis plusieurs années pour que la communauté en fait, accepte l'inacceptable, qu'il existe des planètes qui sont différentes de celles du système solaire.
Alors, en effet, Michel Mayer, vous, à ce moment-là, en effet, vous n'en aviez parlé à personne ?
Non, on avait, comment dire, on était déjà pas vraiment dans un esprit de compétition, mais quand même, on se disait, un objet qui varie en quatre jours, si on donne son nom, des amis qui ont des instruments adéquats auraient pu, évidemment, répéter très vite les mesures et nous crier à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que, tant qu'on n'était pas absolument certain de l'interprétation, eh bien, on n'a pas fait l'annonce. Mais j'aimerais, comment dire, peut-être insister sur un point. L'instrument que l'on a utilisé, Elodie, comment dire, est un instrument qui a été, la conception a commencé en 1988 entre André Baran et moi-même, et c'est seulement en 1990 que la construction elle-même a commencé, et c'est un instrument qui a beaucoup bénéficié de la collaboration avec nos collègues français de l'Observatoire de Haute-Provence. Donc c'était comme un instrument qui visait à mesurer très précisément les fluctuations de vitesse des étoiles, et donc je crois que c'est important de donner le crédit à ces collègues qui ont collaboré à la construction de cet instrument.
Didier Queloz, donc ces mesures sont faites en janvier 95, vous publiez le 1er novembre dans Nature. Là, vous dites qu'à ce moment-là, vous faites face à une vague de théoriciens pas contents. Enfin, comment a été reçu ça? Et puis pourquoi, qu'est-ce que ça a révolutionné finalement cet article-là dans l'histoire des sciences?
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'époque, il y a un standard dans la formation du système solaire qui est en fait construit pour expliquer le système solaire avec les planètes géantes qui se trouvent sur les orbites extérieures. Pour plein de bonnes raisons, hein, c'est des problèmes de timing, c'est des problèmes de suffisamment de matériel, c'est des problèmes d'agglomération de matière. Donc, il y a toutes les bonnes raisons pour imaginer que les planètes géantes se trouvent dans des orbites extérieures, donc à plusieurs unités astronomiques de leur étoile. Donc, c'est clair qu'en arrivant avec une planète à courte période, il fallait vraiment être créatif pour imaginer des scénarios pour les faire arriver là. Donc, c'est clair que la communauté a été très sceptique pendant de nombreuses années, d'autant plus qu'il y avait des papiers qui sont sortis qui montraient qu'en fait, ce qu'on aurait peut-être détecté, c'est plutôt de la pulsation ou des effets de l'atmosphère de l'étoile, qui, nous, on avait rejeté dans la structure du papier qu'on avait écrit, mais que je pense que les gens n'arrivaient pas vraiment à comprendre ou n'ont pas vraiment cru, ce qui fait partie d'un processus scientifique. Ceci dit, il faut quand même dire que certains théoriciens ont senti le vent tourner et ont eu le fin nez d'imaginer des processus, et c'est là que l'idée de la migration des planètes a commencé à naître, avec toutes ces complications et puis ces challenges, parce qu'il faut migrer une planète, c'est bien joli, mais si on l'arrête pas, à la fin, elle finit dans l'étoile. Donc ça ne résout pas tous les problèmes, mais c'est clair que ça apportait une nouvelle vision.
En effet.
Après, ça s'est dégradé, tout ça, parce que, en fait, c'est pas simplement des Jupiters chauds qui, maintenant, on sait, sont rares. Il y a quelques pourcents de Jupiters chauds. Après, on a détecté des centaines de planètes, nous, la communauté, qui n'ont pas d'équivalent dans le système solaire. Et actuellement, la vaste majorité des planètes n'ont simplement pas d'équivalent dans le système solaire. Donc, on est devant une sorte de paradigme tout à fait fascinant qui pose la question de l'éventuelle rareté, ou en tout cas la manière d'expliquer comment se fait-il que le système solaire soit comme il est, en considérant la vaste majorité des autres systèmes que l'on a détectés.
Voilà, en effet, c'est l'un des héritages de cette découverte en 95, la rareté de notre système solaire. Michel Mayer, vous, comment regardez-vous ça aujourd'hui? Quel regard vous posez sur 30 ans d'avancée en exoplanétologie, un domaine qui n'existait même pas avant votre article?
Ouais, c'est d'abord un émerveillement quand on voit le nombre de personnes, de collègues qui travaillent actuellement dans ce domaine, le nombre de satellites qui sont envoyés pour approfondir ce genre de recherche. Aujourd'hui, on a presque 7000 systèmes planétaires qui ont été découverts, donc de planètes en tout cas. C'est absolument fascinant. Et certaines planètes sont, comment dire, des surprises à chaque fois. Certaines ont des périodes qui sont de quelques heures. Donc, elles tournent en quelques heures autour de l'étoile. Des planètes qui sont même de lave fondue, tellement elles sont chaudes. Il y en a d'autres qui sont des planètes océans. Donc, on découvre une image de l'univers qui était complètement ignorée avant cette découverte. Donc, il y a d'une part cet énorme émerveillement, aussi une énorme stimulation de chercher de nouvelles méthodes, de nouvelles techniques. Mais aussi une chose qui est intéressante, je dirais plus dans le fonctionnement de l'histoire des sciences, donc ce phénomène de migration orbitale qui est maintenant un phénomène majeur qui se trouve derrière toute la compréhension qu'on peut avoir du domaine, eh bien avait été déjà développé d'une manière extrêmement complète par des astronomes, des collègues américains, Goldreich, Tremaine et autres, Daglin, etc., déjà depuis les années 1980. Et personne n'avait pris en compte cette possibilité que ça paraissait tellement étrange que ça n'avait jamais été pris en compte. Et c'est seulement après la découverte de 51 Pégase et des autres planètes qui sont venues après, évidemment, que tout d'un coup, on a réalisé ce phénomène majeur qui est cette interaction de la jeune planète qui vient de se former avec le disque de gaz et de poussière. Et donc, c'est intéressant de voir par certains côtés, c'est peut-être la chose la plus importante dans tout ce jeu, c'est d'avoir compris qu'il y avait un phénomène majeur qu'on ignorait précédemment.
Didier Queloz, pour conclure, ce sera ma dernière question. Comment vous aussi, vous regardez aujourd'hui, 30 ans plus tard, ce champ disciplinaire que vous avez ouvert?
Alors moi, je suis comme Michel. Moi, je suis fasciné, mais tous les jours. Parce que tous les jours, il y a des choses qui se passent. Tous les jours, il y a des nouveaux objets. Et puis, il y a ce rapprochement qu'on sent venir vers des planètes qui s'approchent de plus en plus de planètes qui pourrait peut-être être susceptible d'abriter le développement de la vie. On voit des planètes de plus en plus petites, on voit qu'on mesure maintenant des atmosphères de planètes plus petites, on détecte des systèmes planétaires qui ont des orbites absolument spectaculaires, et ça va continuer parce qu'en fait, malgré l'énorme majorité des planètes connues, hein, on dit 6000, on est arrivé à 6000, mais on n'a rien fait. On n'a rien fait. Il y a 100 milliards d'étoiles dans la galaxie. Donc, si on prend simplement les 1000 étoiles autour de nous, il n'y a qu'une petite fraction pour laquelle on connaît l'existence d'une planète. Donc, il y a encore énormément à faire. Et j'espère quand même un jour, on va commencer à trouver des planètes qui seront vraiment semblables à la Terre. J'ai de la peine à accepter que la Terre, en tant que système, soit unique dans la galaxie, ça paraîtrait vraiment absolument extraordinaire. Donc, il y en a forcément d'autres. On va aussi trouver des planètes autour des systèmes existants qu'on n'a pas encore trouvés parce qu'on n'a pas encore soit la base temporelle, soit tous les instruments encore que l'on aimerait. Mais la créativité est débordante, les équipes travaillent énormément, il y a de plus en plus d'équipements, il y a des futures missions qui arrivent. Donc, on vit une époque absolument formidable dans le cadre de la recherche des exoplanètes. Et puis, en plus, maintenant, il y a cette ouverture vers la possibilité de la recherche de la vie et la compréhension d'origine de la vie et du mécanisme de la vie dans l'univers qui rend cette recherche absolument vertigineuse.
Mais en tout cas, merci, hein, mille merci à vous deux pour ces travaux, pour cet entretien. Et puis, joyeux anniversaire à vous deux, merci.
Merci beaucoup.
Merci.
C'est très sympa. Merci.
En direct sur France Culture, Watching the Planet de Flaming Lips, car on regarde des planètes extrasolaires tout au long de cette heure. On fête les 30 ans de la découverte des exoplanètes en compagnie de Faustine Cantaloube, chargée de recherche CNRS à l'IPAG, et Guillaume Hébrard, directeur de recherche CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris et à l'Observatoire de Haute-Provence. On vient de parler de l'histoire de la découverte de 51 Pégase B, première exoplanète, qui tout de suite marque d'emblée de jeu une nouvelle classe de planètes, les Jupiters chaudes. On entendait dans cet entretien avec nos deux prix Nobel, la révolution que ça a été, puis surtout le nombre d'instruments, le nombre de missions consacrées à cette nouvelle recherche. Guillaume Hébrard, on a parlé en effet de la vitesse, enfin de cette méthode qui est la vitesse radiale, mais on a tout un tas de méthodes maintenant pour découvrir et débusquer ces exoplanètes.
Oui, c'est assez étonnant parce qu'en fait, comme on le disait tout à l'heure, pendant des siècles, on ne savait pas les détecter, on se disait même on n'y arrivera peut-être pas, et en fait, en une trentaine d'années, il y a plusieurs méthodes qui ont permis de les détecter. Et en fait, il y a une méthode dont on n'a pas parlé jusqu'à présent. En fait, c'est la méthode la plus directe, la plus naturelle. Comment on fait pour détecter une planète extrasolaire? Bon, on prend une étoile, on grossit énormément avec un télescope, et puis on détecte à côté un petit point, et au fur et à mesure du temps, on voit que ce petit point tourne autour de l'étoile. Ça, c'est la méthode directe dont on va parler un peu plus tard, et qui est justement la spécialité de ma collègue Faustine. Mais en fait, cette méthode, elle pose deux énormes difficultés. C'est que la planète, elle va être très proche de l'étoile, puisque le système étoile-planète est très éloigné. Et puis surtout, encore plus dur, la planète, elle est des millions, des milliards de fois moins brillante que l'étoile. Une analogie qu'on peut donner pour ça, ce serait si on imagine un goéland qui vole autour d'un phare au bord de la mer. Donc le goéland, c'est la planète, le phare, c'est l'étoile. Et si le phare, il est à 1000 km, on veut détecter le goéland. Ben ça, c'est pas facile. Alors, depuis, on a réussi, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais donc c'est pour ça qu'en fait, Michel Mayor et Didier Queloz, ben, ils n'ont pas utilisé cette technique-là, ils ont utilisé une autre technique, donc la méthode des vitesses radiales dont on vient de parler. Peut-être juste pour la faire sentir un petit peu mieux, cette méthode des vitesses radiales, on peut prendre l'analogie d'un lanceur de marteau. On imagine un athlète qui fait tourner un marteau autour de lui, et donc c'est surtout le marteau qui tourne, mais le lanceur de marteau, il ressent l'effet du marteau, et donc le lanceur de marteau, il bouge un petit peu, il fait des petites variations de sa position, il bouge un petit peu, et on sent bien que plus le marteau va être massif, plus l'amplitude du mouvement du lanceur de marteau va être élevée. Et donc le lanceur de marteau, c'est l'étoile. Le marteau, c'est la planète. Évidemment, il n'y a pas un filin métallique entre l'étoile et la planète, c'est la force de gravité. Et puis, les autres techniques qui sont apparues après, la technique qui a permis le plus de découvertes aujourd'hui, sur les plus de 6000 exoplanètes qui ont été détectées, la plus grande majorité a été détectée par la méthode des transits, qui est également une méthode indirecte, c'est-à-dire qu'on ne voit pas directement la planète. En fait, elle se produit, c'est très rare un transit, il faut que la planète passe juste devant l'étoile. Donc si la planète passe juste devant son étoile, alors on ne voit pas un petit point qui passe devant l'étoile, parce que de nouveau, l'étoile est tellement loin que l'étoile nous apparaît que comme un point. Par contre, c'est un point lumineux dont on peut mesurer très précisément la quantité de lumière qui nous en provient. Et si on voit que cette quantité de lumière baisse de temps en temps, on peut dire qu'il y a quelque chose qui est passé devant cette étoile. Et si c'est une baisse périodique, tous les 10 jours, tous les 20 jours, la lumière baisse, on peut se dire que c'est quelque chose qui passe tous les 10 jours, tous les 20 jours devant l'étoile, et donc ça peut être une planète.
En effet, cette méthode des transits, c'est un peu comme une éclipse d'une planète qui passe devant son étoile et l'observateur. Mais Faustine Cantaloube, quels sont les avantages et les inconvénients de cette méthode?
Mais en fait, il y en a plein. Pour chaque méthode, en fait, faut bien savoir qu'il y a une configuration du système planétaire qu'on va regarder qui va être privilégiée. Donc, par exemple, pour la méthode des vitesses radiales et la méthode des transits, en fait, on veut vraiment que le système étoile-planète soit dans l'axe de vision de nous, quoi, des observatoristes. Alors que, par exemple, en imagerie directe, au contraire, on va tendance à privilégier des planètes qui sont très loin de leur étoile, qui sont très brillantes, très grosses, très chaudes. Donc, non seulement on va favoriser certaines configurations, mais en plus, l'exploration des différents paramètres qu'on va pouvoir avoir avec chacune de ces techniques va être très différente. Donc, avec certaines techniques, on peut avoir accès très facilement à la masse, à la distance. Avec d'autres, au contraire, plutôt le rayon de la planète, etc. Et en imagerie, on en reparlera sûrement, on peut aussi avoir, et avec le transit aussi, accès à certains éléments sur la composition atmosphérique de ces planètes. Et il y a une dernière notion, donc trois points, une dernière notion qui me semble assez intéressante, c'est la notion de faux positif. On en a légèrement entendu parler pendant l'extrait et puis là ici, c'est qu'en fait, tous ces signaux qu'on a, il y a de fortes chances aussi que quelque chose d'autre soit à l'origine de ce signal et pas une planète. Et donc, de savoir faire la différence entre tous ces faux positifs et une vraie détection, il y a plein de façons de le faire. Donc, regarder avec plusieurs instruments, regarder dans le temps, justement, pour voir si c'est vraiment quelque chose qui se répète. Étudier bien l'étoile pour savoir si c'est pas soit une pulsation de l'étoile, soit une toute sorte d'activité qu'il y aurait à la surface de l'étoile qui cacherait ça. Voilà, il y a plein de moyens de retrouver, ou aussi faire de la fusion, hein, de regarder toutes ces méthodes en même temps.
C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui, il y a 6022 exoplanètes confirmées et 7000 exoplanètes candidates. Parce qu'on a besoin, en effet, de plusieurs données, de recouper toutes ces différentes informations. Vous souhaitiez compléter, Guillaume Hébrard?
Pour compléter justement ce que tu as dit, Faustine, sur les méthodes. En effet, les différentes méthodes, elles ont leurs avantages, leurs inconvénients. Et on a la chance d'avoir plusieurs méthodes. Et ce qui est encore plus fort, c'est quand un même système planétaire peut être étudié, caractérisé, détecté par plusieurs méthodes à la fois. Et ça, on en a quand même pas mal. Et ça, ce sont les plus intéressants. Parce qu'évidemment, on a même certaines quantités, valeurs, paramètres de la planète qu'on mesure par différentes méthodes, on peut comparer. Ou alors, il y a une méthode qui peut prédire que par une autre méthode, on va détecter quelque chose. On n'avait jamais cherché encore, mais on cherche avec cette autre méthode et justement, on le confirme. Et ça, en science, c'est peut-être parmi les choses les plus belles en science, qu'on fait une prédiction et que la prédiction se vérifie. C'est-à-dire qu'on prédit qu'il y a quelque chose, une observation qu'on doit faire, un signal qu'on doit détecter, qu'on n'avait jamais vu ou même qu'on n'avait jamais cherché. Une méthode prédit ce signal, on va le chercher par une autre méthode et on le voit, on le vérifie. Et ça, en exoplanétologie, il y a vraiment plein de cas comme ça qui bénéficient du fait qu'on a plusieurs méthodes de détection.
Et alors, en quoi consistent justement les méthodes d'imagerie directe? On continue notre chasse aux exoplanètes avec le reportage du jour. Il existe donc plusieurs techniques pour détecter les exoplanètes et on va se pencher sur la méthode d'imagerie directe. Et c'est avec vous, Loïc Dutoit, bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous vous êtes rendu à l'observatoire de Meudon pour voir comment il est possible de détecter la lumière d'une planète.
Oui, alors vous en avez parlé, Guillaume Hébrard. Moi, l'analogie que m'avait donnée Raphaël Galichet, qui est maître de conférence à l'Université Paris-Cité et à l'Observatoire de Paris, que j'ai rencontré pour ce reportage, c'est celle d'une luciole qui vole à 1 mètre d'un phare maritime allumé à New York et qu'on essaierait de photographier avec un appareil photo qui, lui, serait à Paris. Et donc ça, c'est à peu près l'analogie qu'on peut donner pour tenter de détecter par imagerie directe un Jupiter, une planète telle que Jupiter, qui serait autour du Soleil. Et donc le principal défi de cette technique de détection, c'est de parvenir à s'abstraire de la lumière de l'étoile, comme vous le disiez, une étoile qui est entre 10 000 et 10 milliards de fois plus lumineuse que ses planètes voisines. Et donc pour le faire, on utilise des filtres, mais des filtres un petit peu particuliers, car ils doivent atténuer la lumière de l'étoile sans atténuer la lumière des potentielles planètes qui gravitent autour.
Par votre téléphone.
Oui, moi je vais.
Dans ce cas-là, mettez la lumière. Allez-y, posez-le là. Et puis venez prendre la carte. Il y a un petit trou là dans la carte. Le but du jeu, c'est que vous regardiez la lumière en collant la carte comme ça à votre œil. Est-ce que vous voyez la lumière?
Oui, okay. Ça marche nickel.
Et maintenant, tournez la carte comme ça. Faites-lui faire une rotation. Et faites-le pendant que vous regardez. Vous voyez ce qui se passe?
La lumière accompagne le mouvement.
Voilà.
Donc, étonnamment.
Voilà. Donc, ça vous montre.
C'était
que...
pas trop prévu, ça.
Ça vous montre que ce que vous voyez, c'est lié au trou qui est dans la carte.
Eh oui, parce que mon téléphone, il bouge pas, c'est derrière la carte.
Donc, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle la diffraction. C'est que l'image d'un point à travers une ouverture n'est pas un point. L'image d'un point à travers un système optique n'est pas un point. C'est une petite tache. C'est ce qu'on appelle la tache de diffraction. Donc en gros, ça c'est l'étoile, ça c'est le télescope, et vous êtes le détecteur. Ici, je change la taille du télescope, et je vais changer la taille de la tâche. Il se trouve que c'est inversement proportionnel.
Quand on regarde une étoile, la tâche de diffraction est si puissante qu'elle peut cacher une autre tâche de diffraction, minuscule, qui serait liée à la présence d'une planète. Tout l'enjeu, ensuite, c'est d'atténuer la tâche de diffraction stellaire sans atténuer celle de la planète. Pour comprendre comment on y parvient, Raphaël Galichet utilise un banc de démonstration. Il y a un laser scindé en deux qui simule d'un côté la lumière de l'étoile et d'un autre une lumière beaucoup plus faible, celle de la planète. Un peu plus loin, la lumière du laser passe dans une ouverture qui représente le télescope, puis elle arrive sur une caméra qui nous permet de voir la tâche de diffraction depuis un écran d'ordinateur. C'est entre la caméra et le télescope qu'on peut ajouter un système de filtre appelé coronographe afin de dévoiler la planète.
Et donc ça, ce qu'on voit là, c'est ce que vous avez vu sur votre œil. C'est la tâche de diffraction, alors c'est en direct. La tâche de diffraction est directement reliée à l'ouverture du télescope, donc à la forme du miroir, à son diamètre, à la longueur d'onde à laquelle on observe, donc la couleur à laquelle on observe. Et ici, donc, on voit une tâche très brillante au centre, et puis plein d'anneaux autour, qu'on appelle les anneaux de diffraction.
Et puis il y a des branches aussi, comme on peut dessiner un peu un soleil.
Ouais, alors les branches sont dues ici au système qu'on utilise pour créer le télescope, qui est une iris qui n'est pas exactement circulaire, mais qui a des petites aspérités. Et donc ce qu'on voit, c'est la diffraction par ces petites aspérités. Et donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est masquer la lumière de cette étoile pour voir s'il y a quelque chose à côté. Donc, pour ça, je vais venir mettre un masque directement sur l'endroit où se forme cette image. Derrière le télescope, la lumière, elle est focalisée quelque part. Et donc, je vais venir mettre un masque devant cette étoile. Et on voit qu'effectivement, je masque une partie de la lumière de l'étoile. Seulement, quand on fait ça, on voit que ça suffit pas. On n'arrive pas à détecter une planète à côté.
Là, je vois pas de planète,
effectivement. On voit rien d'autre que les anneaux concentriques qui sont dus à la lumière de l'étoile qui bave sur le détecteur. Ça, c'est un problème similaire qu'a eu Bernard Liot, qui était un astronome du XXe siècle, milieu XXe, qui lui voulait observer la couronne solaire. Et donc Bernard Liot, il a créé un instrument qui lui permettait de faire des éclipses artificielles. Et ensuite, on a repris cet instrument qui s'appelle le coronographe solaire, on l'a repris pour observer les environnements ténus des étoiles. Et on l'a mis en coronographe stellaire, qui ressemble beaucoup à l'instrument de Bernard Liot, avec ce masque qu'on vient de mettre, et un autre masque un petit peu plus loin. D'ailleurs, il porte son nom, on appelle ça le diaphragme de Liot, qui permet de masquer...
Et là, vous venez de le mettre en marche, et effectivement, on a quasiment plus de lumière de l'étoile.
On a quasiment plus de lumière de l'étoile parce que...
Il doit rester trois petits cercles concentriques. Moi, j'en vois trois, en tout cas.
Il reste un tout petit peu de lumière. On a dû l'atténuer d'un facteur peut-être 10 000 ou 100 000 sur ce petit banc de démonstration pour le public. Et tout le génie de Bernard Liot, c'est d'avoir compris que la lumière qui, tout à l'heure, passait autour du premier masque qu'on a mis, se retrouvait concentrée dans une région de l'espace, un petit peu plus loin. Et c'est dans ce plan-là qu'il a mis son diaphragme pour l'arrêter, tout en laissant passer la lumière de ce qui était à côté.
Et donc on voit apparaître un autre petit point à côté que je suppose être une planète.
Alors, soyons précis, on est d'accord qu'il n'y a pas d'étoile, il n'y a pas de planète dans notre laboratoire, mais en revanche, on simule la lumière d'une étoile et on simule la lumière d'une planète. Et quand on met en place le coronographe de Liot et qu'on l'aligne sur l'étoile, eh bien on arrive à masquer complètement la lumière de l'étoile, on la filtre, tout en laissant passer la lumière d'une source qui est légèrement décalée angulairement, et donc qui est la planète, et qu'on arrive à voir en ce moment sur l'écran.
Sur ce banc d'essai qu'on a en face de nous, c'est déjà assez impressionnant à quel point on peut atténuer la lumière d'une, ici, une étoile de synthèse, mais donc avec un vrai télescope, une vraie étoile, grâce à ce coronographe. Mais j'imagine que l'idée, c'est de pouvoir encore plus atténuer la lumière des étoiles à l'avenir.
Oui, parce qu'en fait, comme on le voit sur l'image qui reste là, bien sûr, on arrive ici à détecter cette fausse planète qu'on a créée, mais cette fausse planète, elle est plutôt brillante. Et dans la réalité, elle serait plus ténue et on serait embêté par cette lumière résiduelle de l'étoile dont vous parliez tout à l'heure, ces quelques anneaux, et puis ces petites taches qu'on voit autour, ces petites taches qu'on appelle des speckles ou des tavelures en français. À l'avenir, on veut minimiser l'intensité lumineuse de ces tavelures stellaires. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut réussir à compenser toutes les aberrations optiques qui sont dans l'instrument. Parce que ces tavelures stellaires, elles sont dues à des aberrations optiques, donc des petits défauts sur les lentilles, sur les miroirs qu'on utilise, des petits défauts sur les diaphragmes qu'on utilise, qui vont faire qu'une partie de la lumière de l'étoile diffracte à travers ce système et n'est pas filtrée correctement. Et pour compenser ces aberrations, il faut les mesurer. Et une fois qu'on les a mesurées, on utilise des miroirs déformables, par exemple. Donc il faut imaginer un miroir qu'on va couper en 1000 petits morceaux qu'on peut bouger individuellement et indépendamment les uns des autres, pour créer une forme qui compense les aberrations optiques du système. Et tout ça, c'est ce qui va être mis sur ciel dans les années à venir, par exemple avec l'instrument Sphere Plus. Il y a aussi un instrument aux États-Unis, JPI 2, et puis il y a d'autres instruments qui sont en train de faire ça. Et c'est toute une combinaison de différentes techniques optiques, algorithmiques, de logiciels de contrôle, de stratégies d'observation pour réussir au résultat final et détecter dans quelques années ou dizaines d'années une planète Terre autour d'une étoile qui ressemble au Soleil.
Merci Loïc Dutoit. Nos reportages loin du studio pour se frotter à la science telle qu'elle se fabrique au quotidien, c'est notre collection La Science au Labo, sur votre appli préférée, l'appli Radio France bien sûr. Voilà, on a vu tout au long de cette heure que les méthodes de détection, les méthodes même directes, sont en plein développement actuellement. Ils vont permettre des observations de plus en plus poussées des exoplanètes. Alors jusqu'à présent, ce sont surtout les super-terres et les mini-Neptunes qui semblent être la norme, entre guillemets, dans les systèmes extrasolaires, alors que ce sont des astres qui n'existent pas dans notre système solaire. Alors, qu'est-ce que l'étude, justement, des exoplanètes nous apprend de la diversité des mondes, Guillaume Ebarard?
En fait, les sous-Neptunes ou les mini-Neptunes et les super-Terres, ce sont donc des planètes qui ont des tailles, des masses intermédiaires entre celles de Vénus et la Terre, qui sont dans notre système solaire les planètes telluriques, les planètes solides les plus grosses, et puis Uranus et Neptune d'autre part, qui sont à peu près 4 fois plus grosses, et qui sont les plus petites des planètes gazeuses dans notre système solaire. Entre les deux, dans le système solaire, il n'y a rien. S'il y avait une planète, une super-Terre ou une mini-Neptune dans le système solaire, bien sûr qu'on l'aurait vue. Si elle tournait, là, toutes celles qu'on connaît, elles tournent en quelques dizaines, quelques centaines pour les plus éloignées de jours autour de leur étoile, donc assez proche de leur étoile, bien sûr qu'on la verrait si on avait une planète comme ça autour du Soleil, on la verrait à l'œil nu. Donc non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de super-Terre, il n'y a pas de sous-Neptune dans le système solaire, et pourtant, ces planètes-là, alors on n'en connaît pas tant que ça, on en connaît pas mal, mais surtout, elles sont très difficiles à détecter, parce qu'elles produisent des effets sur leur étoile très ténus, qui sont difficiles à caractériser, à détecter. Donc il faut énormément observer une étoile avec des très bons instruments pour les détecter. Mais si on corrige le fait, si on prend en compte le fait qu'elles sont très difficiles à détecter et qu'on regarde combien on en connaît actuellement, eh ben on se rend compte qu'en fait, il y en a quasiment partout, que quasiment toutes les étoiles ont ce type de planète. Donc ça, c'est un résultat très surprenant, parce que ces planètes-là, on ne connaissait pas, on ne soupçonnait pas leur existence il y a 25 ans, parce que les premières, c'était des géantes gazeuses, hein, donc ce n'était pas des sous-Neptunes ou des super-Terres. Et donc depuis 25 ans, on en détecte. Et en fait, maintenant, on prend une étoile, on observe à fond avec une bonne instrumentation, on est quasiment sûr d'en détecter. Donc ça, c'est assez étonnant, c'est une nouvelle population de planètes qu'on ne connaissait pas du tout. Et il y en a d'autres, en fait, dans les 6000 planètes extrasolaires qu'on a détectées, il y en a très peu qui sont similaires aux 8 planètes du système solaire.
Mais ça, en effet, c'est une des surprises majeures de ce champ disciplinaire, Faustine Cantaloub, sur l'exceptionnalité de notre système solaire.
Oui, c'est clair. Après, est-ce qu'on en est sûr que ce n'est pas un biais observationnel de découvrir que ce genre d'eau, enfin, essentiellement ce genre d'objet ou pas?
Que c'est quelque chose qui serait lié aux méthodes d'observation?
Ouais. C'est évidemment une bonne question, parce que comme tu disais tout à l'heure, chacune des méthodes a ses avantages, ses inconvénients. Donc, il y a plein de biais observationnels. Un biais observationnel, c'est quelque chose qui favorise la détection de certaines choses et qui empêche la détection d'autres. Il y a une histoire qu'on raconte souvent, c'est une histoire de Coluche. Il dit, j'ai perdu mes lunettes et je cherche le réverbère. Pourquoi tu cherches là? Elles sont pas forcément là. Je cherche là parce que c'est là que je peux les trouver. Et en fait, en science, on fait souvent ça. En science, on cherche avec les méthodes dont on dispose, qui permettent de voir certaines choses, mais qui ne permettent pas d'en voir d'autres. Et donc, on essaye de corriger ça, de voir quelles sont les choses qu'on n'arrive pas à voir. Et donc, en faisant ces calculs-là, en débiaisant, c'est-à-dire en corrigeant les choses que certaines méthodes détectent prioritairement, et ben on arrive à voir si les planètes sont abondantes ou pas. Et oui, le fait que les sous-Neptunes, les super-Terres sont très abondantes, ça, on en est sûr maintenant. Alors, on ne sait pas si c'est 50% des étoiles ou peut-être même 100% des étoiles qui en ont. Il y a encore des incertitudes. Mais on sait que c'est très fréquent. Et ça, ce n'est pas un biais observationnel. On sait que c'est le cas. Ça ne veut pas nécessairement dire que les Terres ne sont pas encore plus nombreuses. Parce que ça, pour le coup, les Terres, une planète comme la Terre qui tourne en un an autour d'une étoile comme le Soleil, on n'en a quasiment pas détecté. Parce que là, c'est, autant les super-Terres et les sous-Neptunes, c'est très dur à détecter. Les Terres, c'est très, 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 très dur à détecter. Donc peut-être qu'on en détectera, peut-être qu'on va se rendre compte qu'elles sont très abondantes ou qu'en fait, elles ne sont pas très abondantes, ça, on ne sait pas encore. Par contre, ce dont on est sûr, c'est que les super-Terres, les sous-Neptunes sont très abondantes et qu'il n'y en a pas dans le système solaire. Ça, c'est un résultat, c'est du béton.
Faustine Cantaloub, parce que je pense aussi au fait, notre Soleil, la majorité des étoiles se trouvent en fait dans des systèmes binaires et sont majoritairement des naines rouges, alors que ce n'est pas du tout le cas de notre étoile à nous.
Oui, absolument. Je pense que c'est bien de prendre un petit peu de recul pour avoir une bonne vision. Déjà, toutes les exoplanètes qu'on a découvertes à ce jour, elles sont dans la Voie lactée. Et en fait, non seulement elles sont dans la Voie lactée, mais il faut s'imaginer que la Voie lactée, elle a un diamètre d'environ 100 000 années-lumière. Et que donc le Soleil, il est à peu près à 2/3 entre, par rapport au centre de la Voie lactée et la périphérie. Et en fait, on a regardé que des étoiles, on a trouvé des planètes autour d'étoiles qui sont essentiellement dans un rayon de 2000 années-lumière autour d'un diamètre en rayon, c'est pas, mais de 2000 années-lumière autour du Soleil, donc une toute petite région autour. Et effectivement, il faut savoir que dans notre Voie lactée, on a estimé que la plupart des étoiles étaient de type binaire, donc elles étaient en double, mais aussi parfois triple, quadruple, enfin, on a plein de systèmes comme ça hiérarchiques, et aussi que la vaste majorité, donc plus de 80%, sont des étoiles dites de faible masse, donc inférieures supérieure à deux fois la masse solaire. Donc notre soleil, c'est une petite étoile, en fait. C'est une naine jaune, on appelle ça. Et donc, il y a beaucoup de naines rouges. Et un aspect dont on n'a pas du tout parlé hein, dans ces histoires de biais de détection ou pas, aujourd'hui, on a regardé essentiellement des étoiles solitaires, donc ce qui n'est pas forcément la majorité. Mais on a aussi, parce que c'est plus facile, regarder des petites étoiles, parce que c'est beaucoup plus facile de détecter certains compagnons autour. Et dans le cadre, par exemple, de l'imagerie directe, on a aussi regardé des étoiles jeunes. Et donc, ça donne, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une histoire de configuration qui fait qu'on a une vision finalement assez éparse, encore aujourd'hui, qu'on essaye de compléter le plus possible par nos recherches.
Ce qu'on a vu également, je pense aussi à cette compréhension-là, hein, sur la formation, la naissance des planètes. On pensait que les planètes se formaient dans des disques protoplanétaires et en 2017, Faustine Cantaloub, on l'a vu. C'est émouvant d'ailleurs, c'est l'imagerie directe aussi.
Oui, moi j'ai trouvé que c'était une expérience à la fois en tant que chercheuse assez extraordinaire et puis un peu spéciale aussi. Ça m'a fait d'ailleurs... Didier Queloz et Michel Mayer dans l'interview juste avant parlaient qu'il n'y avait pas beaucoup de compétition à l'époque. Cet objet-là, vraiment, c'était, c'était du lourd. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a quelques mois, il y a eu l'annonce de WISPEED 2B, qui est une autre planète qui a été découverte dans un disque protoplanétaire. Et c'est vraiment des planètes qui sont hyper intéressantes parce qu'on va pouvoir les analyser sous tous les angles. Et d'ailleurs, depuis cette découverte en 2017, il y a eu vraiment une énorme quantité de publications sur cet objet. Donc on pensait que les planètes, voilà, pouvaient se former grâce à la matière du disque circumplanétaire, donc jeune, donc ce qu'on appelle le disque protoplanétaire, donc qui est essentiellement fait de gaz et de poussière. Et là, effectivement, c'est ce qu'on a vu directement sous nos yeux. On a vu qu'il y avait un gap, un fossé, un trou voilà, autour de l'étoile. Et dans ce trou, on a trouvé la planète qui, effectivement, accrète de la matière.
Guillaume Hébrard, justement, sur comment cette recherche, cette étude des exoplanètes nous permet de redessiner, de mieux comprendre tout ce qui est théorie des formations planétaires et des systèmes planétaires.
Justement, Didier Queloz, en suivant ce qu'a dit Faustine et ce que disait Didier Queloz tout à l'heure, en effet, avant 1995, on connaissait une seule étoile avec des planètes, avec seulement 8 planètes, donc des petites planètes proches et des grosses planètes loin. Donc il y avait des modèles qui existaient pour expliquer comment ça s'était formé, comment ça avait évolué, mais ils étaient en effet assez ad hoc, adaptés au système solaire, et c'était difficile de dire est-ce qu'ils étaient vraiment universels ou pas. Maintenant, on connaît des milliers de systèmes planétaires, et donc on connaît des différentes populations de planètes. On sait qu'il y a des planètes géantes et des planètes plus petites. Qu'entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Il y a deux populations comme ça. Et on sait que dans les populations géantes, il y en a qui sont très proches, les Jupiters chauds, quelques-unes. Elles ne sont pas très abondantes, mais il y en a. Et d'autres qui sont à plus grande période. Donc ça fait ces trois grandes populations de planètes. Et donc on a de la statistique sur les populations de planètes, puisqu'on en a des milliers. Et donc les modèles qui permettent d'expliquer comment former ces planètes et comment ils vont évoluer, ces systèmes planétaires, on peut les confronter, les comparer aux propriétés statistiques qu'on connaît de tous les systèmes planétaires. Et ça, notamment, quelque chose de... on voit que, en gros, on va former des petites planètes et que si ces planètes, c'est comme ça que ça se forme, tu en as un petit peu parlé, dans un système, dans un disque protoplanétaire d'une étoile au tout début de sa vie, il y a un disque de gaz et de poussière. À l'intérieur de ça, par accrétion, il y a des petits blocs qui se forment qui vont donner naissance à des petites planètes. Certaines de ces planètes vont pouvoir accréter du gaz et devenir des grosses planètes. Et il n'y a pas tellement de cas intermédiaires. Les modèles disent que ça ne va pas s'arrêter en cours de route, ou ça reste une petite planète, ou ça devient une grosse planète. Et puis après, dans leur révolution, là Didier Queloz en a parlé, les Jupiters chauds, on sait que ce n'est pas possible de créer une planète massive comme Jupiter si proche de son étoile. Donc nécessairement, elle s'est formée plus loin. Et donc ça veut dire que par la suite, les planètes ont migré, elles se sont rapprochées de leur étoile. Et donc ça, avant, on y pensait un petit peu, mais pas tant que ça. Maintenant, c'est une évidence que la migration est à prendre en compte et un phénomène important dans l'évolution des systèmes planétaires, et donc y compris dans le système solaire. Les planètes dans le système solaire, Jupiter, Saturne, les autres planètes, n'ont pas toujours été à la même distance du Soleil que celles que l'on voit actuellement.
Pour conclure très rapidement, Faustine Cantaloub, on comprend qu'on est au tout début d'une nouvelle histoire. Quels sont les projets que vous attendez au niveau spatial pour ce champ-là ?
Oui, c'est vrai que là, on a eu un gros pas qui a été fait avec le lancement de James Webb Space Telescope il y a déjà 4 ans. Il y a eu des résultats assez incroyables. Là, au niveau des grands télescopes au sol, avant peut-être, c'est la construction imminente qui est en cours hein, au Chili de l'Extremely Large Telescope, donc un télescope qui fera la bagatelle de 39 mètres de diamètre, alors qu'aujourd'hui les plus grands sont autour de 10 mètres de diamètre. Donc un télescope qui sera composé de plein de petits miroirs, parce que bon, à 39 mètres, on ne peut pas faire un seul miroir en une seule pièce. Et donc beaucoup de cas scientifiques vont être dédiés à l'exploration des exoplanètes, et en particulier de la compréhension de leur atmosphère. Au niveau spatial, il y a deux grands projets projets là qui vont être vraiment dédiés. Alors c'est complètement biaisé parce que je pense c'est sur l'imagerie directe, mais il y a le Roman Space Telescope et ensuite le Habitable World Observatory. Donc là c'est beaucoup plus tard, mais dans quelques années. Voilà.
Parfait, ce sont des missions et ce sont des missions. Il y en a plein d'autres et ce sont des missions qu'on regardera. Merci à vous deux. Tout de suite, on quitte l'astronomie, mais on va rester avec les prix Nobel puisque la folle semaine des annonces des lauréats des prix Nobel 2025 a commencé aujourd'hui. C'est le prix Nobel de physiologie qui a été révélé et c'est la chronique avec science avec Alexandra Delbo.
Le prix Nobel de médecine ou physiologie 2025 récompense une découverte fondamentale dans le contrôle du système immunitaire. Il est attribué à trois scientifiques, Marie Brunko de l'Institut de biologie des systèmes à Seattle, Fred Ramsdell de Sonoma Biotherapeutics à San Francisco et Shimon Sakaguchi de l'Université d'Osaka. Trois lauréats pour un même domaine, la tolérance immunitaire périphérique. Et pour comprendre leur découverte, il faut revenir aux bases du fonctionnement du système immunitaire. Alain Fischer et professeur émérite au Collège de France.
Il y a deux branches de l'immunité. L'immunité dite innée, qui a valu d'ailleurs des prix Nobel il y a quelques temps, notamment à Jules Hoffmann, qui implique que les cellules du corps, presque toutes les cellules du corps, on va dire, réagissent immédiatement en cas d'agression microbienne et développent tout de suite une réponse immune. Et puis il y a la réponse dite adaptative, qui prend un peu plus de temps, qui est liée à une reconnaissance très spécifique de morceaux de protéines qu'on appelle des antigènes, par les lymphocytes T et les lymphocytes B. Les lymphocytes B, ils sont souvent plus connus parce qu'ils produisent des anticorps. Et les lymphocytes T, ils sont responsables de toute une série d'actions qu'on répond à l'immunité cellulaire adaptative qui sont impliquées dans l'immunité contre les bactéries, les virus, l'ensemble des microbes. Et donc tout ça, et l'immunité innée et l'immunité adaptative, est sous le contrôle de ces lymphocytes T régulateurs qui évitent que ces réponses soient excessives.
Ces lymphocytes T régulateurs ont le pouvoir de vie ou de mort sur les autres globules blancs. Et c'est essentiel pour que notre corps ne s'attaque pas à lui-même et n'attaque pas non plus des bactéries inoffensives comme celles de notre microbiote. C'est ça que l'on appelle la tolérance immunitaire. Et c'est cette découverte qui est récompensée aujourd'hui par le prix Nobel. Cette avancée dans la compréhension du système immunitaire s'est construite en plusieurs étapes et ce qui explique qu'il y a aujourd'hui trois lauréats. C'est le chercheur japonais Shimon Sakaguchi qui, en 1995, a identifié pour la première fois chez la souris cette population particulière de lymphocytes T, capable donc de réguler les réponses immunitaires. Sans ces agents de sécurité de l'immunité, les souris développaient des maladies auto-immunes. Et c'est en cherchant à comprendre ces maladies que Marie Brunko et Fred Ramsdell ont découvert en 2001 un gène indispensable au développement de ces cellules.
Chez la souris puis chez l'homme, montrer qu'il y avait une molécule, un facteur de transcription qui s'appelle FOXP3, qui est absolument crucial pour que ces cellules se développent. C'est-à-dire que si ce facteur manque, le gène est muté, qui a été décrit d'abord chez la souris. Donc les souris n'ont pas de ce facteur, n'ont pas de ces cellules, et donc développent très tôt, dès la naissance, une maladie sévère, inflammatoire et auto-immune, et on observe la même chose chez l'homme. Voilà, donc c'est un pan important de la compréhension du fonctionnement du système immunitaire à travers son contrôle. Donc il y a à la fois un rôle de prévention des maladies auto-immunes et c'est une espèce de thermostat sur les réponses immunes, en particulier donc contre des microbes qui ne sont pas pathogènes, qui ne provoquent pas de maladies, mais avec lesquels nous vivons en bonne entente, en symbiose, comme on dit, et c'est en grande partie grâce à ces lymphocytes régulateurs. Donc ce sont des cellules importantes et actuellement beaucoup de chercheurs cherchent à les utiliser pour essayer de traiter des maladies auto-immunes, etc., etc.
L'enjeu aujourd'hui, c'est de réussir à manipuler ces lymphocytes T régulateurs. D'abord, pour traiter les maladies auto-immunes, quand le corps s'attaque lui-même, comme dans le diabète de type 1 par exemple. Ensuite, pour éviter également le rejet de greffe, quand le système immunitaire reconnaît l'organe transplanté comme étranger. Et enfin, à l'inverse cette fois, dans le cancer, là, il faut freiner l'action de ces cellules T régulatrices, car elles empêchent parfois l'organisme de détruire lui-même les cellules tumorales. Une découverte qui illustre donc à quel point en immunologie, tout est une question d'équilibre.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD avec à la réalisation Olivier Bétard et à la technique aujourd'hui Grégory Wallon. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.